Vous écoutez Radio Esperanza. Za, za, za.
Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Alors ce soir, on a la chance de pouvoir accueillir Naaman avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, moi je vais changer un peu des questions habituelles de, sur la musique. Je vais m'intéresser un peu plus par rapport à toi, si tu veux bien.
Ouais, ok.
Alors, donc j'ai remarqué, donc tu as fait des études de littérature,
mm-hmm.
C'est ça?
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce genre d'études?
En fait, c'est avant le bac, tu vois, mm-hmm. C'est la spécialité littérature, parce que c'était plus ouvert, tu vois, c'est quelque chose qui me correspondait plus, bien plus que le reste.
Maths et sciences.
Exactement, voilà.
Je comprends très bien. Par rapport à ton nom d'artiste, on doit souvent te demander pourquoi tu as pris ce nom-là.
Mm-hmm.
Mais moi, personnellement, je n'ai jamais lu la Bible ni quoi que ce soit, mm-hmm. par rapport à ça. Donc, je ne sais pas du tout qui est ce personnage. Qu'est-ce qu'il représente et pourquoi c'est celui-là que tu as choisi?
C'est des choses qui... Pour moi, c'est, tout ça, ça a été très instinctif. À l'époque où je cherchais un nom pour la musique, je voulais quelque chose qui soit ancré dans la civilisation actuelle, tu vois. Donc mm-hmm. mes parents sont chrétiens, donc j'avais la Bible à la maison que j'avais toujours résisté, j'avais jamais ouvert, tu vois, parce que bon, tu vois, ça m'intéresse, je suis pas du tout dans la religion, vraiment pas.
D'accord.
Et voilà, pour cette raison, j'ai ouvert la Bible, j'ai lu un peu et je suis tombé sur voilà ce personnage de Naaman, et rien que déjà le mot, tu vois, en lui-même, les trois A à la suite, tu vois.
Mm-hmm.
Pour moi, ça m'a parlé et j'ai choisi ce mot-là, et l'histoire de cet homme, c'est un homme qui a été guéri, qui a dû faire face. Il est devenu lépreux, tu vois,
mm-hmm.
Il est tombé dans une grande colère, et pour être guéri de la lèpre, il a dû faire face à son ego, tu vois, et réussir à le mettre de côté. Et pour moi, ça c'est vachement d'actualité dans la musique, tu vois.
Mm-hmm.
Si tu veux faire de la musique qui soit vraie, qui soit instinctive et spontanée,
ouais.
et rester proche de la vérité, tu peux pas prendre un ego démesuré, tu vois.
Comme voilà. Malheureusement beaucoup attrapent.
Parce que tout est là pour flatter l'ego, tu vois, dans la musique.
Oui.
Voilà. C'est des photos de nous tout le temps, partout, les gens qui viennent demander des photos, forcément, tu vois.
Oui, bah oui,
ça
oui.
peut déstabiliser, mais c'est un bon travail à faire sur soi.
D'accord. Oui, dans toutes les... Enfin, j'ai remarqué que tu as fait beaucoup, beaucoup de pays différents pour tes différentes tournées, concerts, etc. Est-ce que tu as une anecdote de voyage à raconter?
Oh, anecdote de voyage. Ouais, ce qui me vient en tête, forcément, c'est une petite île près de la Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Lifou.
Mmh.
Et Lifou, voilà, c'est une île vraiment petite, tu vois, où ils n'avaient pas eu de concert. Enfin, voilà, ils n'ont pas souvent de concert et on allait jouer donc, pour des tribus là-bas et les gens sont... C'était merveilleux, quoi. C'est pas vraiment une anecdote, c'est juste que tu vois, il y avait des bébés en couche-culotte qui dansaient au premier rang, tu vois. Il y avait des vieux anciens de la tribu qui étaient là. Il y avait vraiment. C'était une super ambiance et au milieu de la jungle, tu vois. Donc tu t'es là, tu fais. C'est des belles images qu'on garde, quoi.
D'accord. Mmh. T'arrives à te faire connaître jusque dans les tribus, toi.
Bah, en plus, tu vois, sur cette île, il y a une tribu qui s'appelle la tribu de Naaman, tu vois. Donc laisse tomber, toute la tribu est venue, tu vois. Ils pensaient
oui.
même que c'était la tribu qui venait jouer, tu vois. Enfin, c'était bon, quoi. C'était marrant. C'était. Ouais.
Par rapport à. Hop, pardon. À la Jamaïque.
Mm-hmm.
Donc, t'es allé la première fois, c'était quand?
C'était en 2011.
2011. Et je suppose que ce qui t'a attiré là-bas, c'est par rapport à ta musique. Mais pourquoi particulièrement ce pays-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais vivre là-bas? Quelqu'un que tu voulais voir?
Ouais, en fait, c'était. Il y avait deux endroits que je voulais voir, c'était les îles Vierges, qui sont pas très loin de la Jamaïque, et la Jamaïque. Pour les îles Vierges, pour le style particulier de reggae qu'ils ont, pour ce reggae très spirituel qui, mm-hmm. qui émane de l'île. Et la Jamaïque, parce que j'avais besoin surtout d'apprendre, de parfaire mon anglais aussi, de travailler avec des musiciens jamaïcains, puis j'avais vraiment envie de connaître l'île. Et c'était une expérience énorme, parce qu'en fait, le temps que j'arrive jusqu'en Jamaïque, tu vois, en traversant les îles Vierges et tout, j'ai eu un appel d'un label français qui nous a proposé de réenregistrer notre premier projet en Jamaïque, mm-hmm. avec des musiciens légendaires.
Okay.
Donc quand je suis arrivé en Jamaïque, il y a carrément quelqu'un qui est venu me chercher à l'aéroport, tu vois, c'était plus sac à dos du tout, c'était valise
ouais,
à roulette.
Enfin
voilà, c'était une super expérience.
Et tu es retourné depuis là-bas?
Ouais, j'y suis retourné pendant pas mal d'années, j'y suis retourné tous les ans, parce que c'est un endroit où je me sens vraiment bien. Au début, je faisais quelques concerts, et puis...
Mm-hmm.
quelques enregistrements, et puis au fur et à mesure j'ai commencé à y aller vraiment juste pour me poser, me reposer, écrire. Et voilà, c'est un super spot pour ça.
Tu trouves beaucoup d'inspiration par rapport à ce pays-là ?
Ouais, en fait, on est dans une atmosphère, tu vois, qui est vachement... qui est belle, qui est pleine de poésie, pleine de musique, mm-hmm. Les gens sont beaux, les gens, même quand ils parlent, c'est beau, tu vois, et tu rencontres vraiment toutes sortes de gens différents. Et non, c'est énorme, tu vois, sortir dans sa zone de confort, de toute façon, mm-hmm. c'est toujours bon, parce que ça casse un peu les certitudes aussi, tu te rends compte qui t'es vraiment, ou en tout cas, comment tu réagis dans tel endroit, mm-hmm. c'est très enrichissant.
D'accord. Ah oui. Désolée, les questions partent un peu dans tous les sens. J'ai eu du mal à me structurer. j'avais vu que tu avais pris position face à la légalisation du cannabis. Mm-hmm. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a amené à être pour la légalisation ? Voilà.
Pour plusieurs raisons. Bon, d'abord parce que j'en fume depuis des années et que voilà, enfin ça devrait aujourd'hui être quelque chose de possible, tu vois, sans mm-hmm. risquer vraiment de perdre ton travail ou de te finir en prison, même pour certains trucs. Aussi parce que dans ma famille, il y a eu, tu vois, ma mère en l'occurrence aurait pu être soignée avec de la, tu vois, du cannabis de façon beaucoup plus efficace et sans effet secondaire, tu vois, et voilà, et ça c'est aussi quelque chose qui est pas possible en France, où on est obligé de le faire illégalement, et ça c'est des prises de risque, parce que si tu vois, on sait jamais, tu vois ce que je dirais, et aussi parce que voilà, c'est une plante qui est magnifique pour ce qu'elle a à apporter, pour plein de choses, plein de domaines. Alors mm-hmm. bien sûr, y a des mauvais côtés, tu vois, c'est comme tout, ce qui compte dans la vie c'est l'équilibre,
oui.
Mais aujourd'hui chacun devrait être libre de faire ce qu'il veut par rapport à ça.
Oui. Je suis d'accord.
Super.
Pourquoi est-ce que tu as refusé de travailler avec les majeurs, enfin ça se dit les majeurs, mais moi je sais pas vraiment, mm-hmm. voilà, les majeurs principaux, et comment tu as fait alors pour produire tes albums sans ça, sans ce soutien?
Déjà, la première fois qu'on a, tu vois, le premier album, il a été mm-hmm. coproduit avec un label français. Bon, c'est pas une major du tout, mais on a eu notre première expérience de travail avec un label, quoi.
Oui.
Après, on a eu des propositions de grosses maisons de disques plus importantes, et puis on a eu des rendez-vous avec eux, Peter notamment. Donc on a bien étudié leurs propositions, leur façon de travailler, tout ça, et on se retrouvait pas vraiment dedans.
Mm-hmm.
On se retrouvait pas non plus dans les gens. Et puis en fait, le truc c'est que moi j'ai commencé la musique il y a des années par volonté d'émancipation, par volonté mm-hmm. de liberté, d'être moi-même à 200%, et je me suis toujours entouré de mes amis et des gens qui aujourd'hui ont trouvé une place dans ce projet. Et la continuité naturelle de ça, c'est qu'on construise quelque chose qui a notre image, tu vois,
ouais.
et notre label dont on peut être fier, tu vois, et ouais. pas avoir à signer des contrats qu'on peut regretter quelques années plus tard, tu vois.
Et justement, par rapport au label que tu as créé, enfin plusieurs à avoir créé.
Ouais, carrément.
Est-ce que ça ne te met pas trop de travail en plus de tout ce que tu as déjà par rapport à Anna Aman?
Mais non, parce qu'en fait. Comme je te disais, tu vois, il y a eu tout un tas de personnes qui se sont greffées au projet depuis mm-hmm. que j'ai commencé. Donc Peter qui est là, qui est le manager, Fat Babs, mon beatmaker qui s'occupe de la musique. Ouais. Et en fait, chacun trouve sa place, tu vois. C'est-à-dire que moi, dans le label, je suis sollicité au moment où je dois être sollicité, mais mm-hmm. le gros du travail, c'est le manager qui le fait parce que c'est ouais. son domaine, tu vois.
Oui, d'accord.
Et nous, on a surtout les directives artistiques, surtout les volontés de tu vois, les directions, les volontés de qui produire, que faire et tout ça. Mais le reste, on a Erika aussi qui est là, qui travaille avec nous depuis un an oui. et demi maintenant, c'est ça. C'est, tu vois, c'est une équipe qui cartonne.
Qui cartonne, ouais. C'est bien. Et dans cette équipe, justement, vous n'avez pas des tensions parfois du fait que vous êtes beaucoup à gérer beaucoup de choses autour de Naaman ou ce genre de choses?
Bah justement, on n'est pas beaucoup, c'est ça l'avantage.
Ah,
c'est qu'on n'est vraiment pas beaucoup. On est trois, tu vois, mm-hmm. vraiment, Peter, Fat Babs et moi. À prendre les décisions, et puis c'est simple, tu vois, on est des potes de longue date, donc okay. on finit toujours par justement au contraire, c'est très simple, il n'y a pas de compromis à faire.
D'accord. Par rapport à tes débuts, qu'est-ce qui t'a fait, enfin qui ou comment tu es arrivé à découvrir le reggae roots des années 60-70, c'est plus ou moins ça,
mm-hmm.
et voilà, qui t'a donné envie d'écouter, envie de te lancer dedans, etc.
En fait, je suis tombé dessus par hasard, vraiment. Parce que Bob Marley avait CCD à vendre dans la grande surface près de chez moi. J'avais bien joué, Bob. donc j'ai pris un album au pif. J'avais 10-11 ans, 12 ans, et j'ai vraiment apprécié. J'ai senti quelque chose de. J'ai trouvé ça magnifique ce qu'il y avait dans le reggae. Déjà, c'est ce groove qu'il y a dans la musique reggae qui m'a parlé déjà tout petit. Et puis, ces artistes qui chantent avec leur foi, tu vois, avec leur cœur grand ouvert. Pour moi, ça m'a beaucoup parlé. Et puis par la suite, j'ai découvert l'immensité du reggae. Moi, ce qui me parle plus, c'est le roots de l'époque. Mais je m'enjaille aussi sur des trucs récents, tu vois. Mais j'adore la rigueur. Et puis, c'est mystique comme musique, le reggae. Parce que tu peux pas juste faire du reggae comme ça, tu vois. Il y a vraiment... Personne peut faire du reggae comme les Jamaïcains parce qu'ils sont nés dedans. Je te jure, c'est culturel, quoi. T'as ça dans les gènes. C'est très attrayant.
Mais toi, on dirait que t'es né dedans aussi. Je dis ça comme ça, mais par rapport, j'ai un grand frère qui aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est reggae roots, etc. Et il m'avait montré des vidéos, et c'est vrai qu'il y en a une dans laquelle on te voit, toi, perdu au milieu de tous les Jamaïcains, et il y a le petit blanc là, et c'est toi. Et c'est super chouette. Je trouve ça. C'est fun et c'est cool, et de voir que même si on vient pas de là, on peut quand même prendre nos racines et se faire porter par ce.
Ouais, c'est ce que j'ai découvert en Jamaïque, vraiment, quand on s'est retrouvé à Trenchtown avec les gars à freestyle, avec tous les gars de la rue, mais vraiment dans un moment. C'est ça que je me suis dit, tu vois, c'est que en fait, on a tous le même feu à l'intérieur, et si tu sais user de ton feu, tu vois, tu peux aller où tu veux, vraiment. Et tout s'efface, toutes les barrières s'effacent, tout. Et il faut juste se rappeler qu'on a ce feu qui est là et en prendre conscience et s'en servir.
Et ce qui t'a. Enfin, tu as un peu répondu déjà tantôt, mais ce qui t'a motivé à écrire et à te lancer toi dans la musique ?
La volonté de création en elle-même, tu vois, avant de faire la musique, je faisais un peu de dessin. J'adorais, je me rappelle, étant jeune, de faire des dessins, tu vois, me retrouver face à une page blanche et devoir la remplir. Et ce sentiment-là, ce truc-là, c'est un truc que j'adore, donc ça s'est transposé sur la musique. L'avantage avec la musique, contrairement au dessin, c'est que c'est très très instinctif.
D'accord.
Et voilà, tu peux vraiment te livrer à toi-même. Le travail, c'est d'être soi-même, tu vois. Et une fois que c'est un bonheur, quoi.
Et depuis que tu es lancé, donc tu pars parfois en quand même longue tournée, enfin beaucoup de concerts, beaucoup de pays. Par rapport à ta famille, elle te manque pas trop ? C'est pas trop long, cette séparation ? Comment tu vis ça?
On vit tous de façon différente, tu vois. On a tous, il y a des gens dans l'équipe qui ont des enfants, donc ça change la donne. Moi, j'ai pas d'enfants en l'occurrence, mais et puis ma vie a toujours été tournée et puis voyage, tu vois, et puis tournée, voyage, et donc elle a toujours été comme ça. Donc tout le travail maintenant, on a tout donné pour la musique pendant des années. Le travail maintenant, c'est de s'équilibrer, tu vois, et trouver un endroit où se poser, et comment construire sa vie, et comment réussir à bien séparer le temps pour que l'un n'empiète pas sur l'autre, parce que la vie, elle est belle quand elle est équilibrée, encore une fois, tu vois, et il y a des choses magnifiques que j'ai pas envie de rater, donc tout ce travail-là, il est en cours en ce moment. Je pense que c'est le travail de mes 2-3 prochaines années, c'est justement de résoudre ce problème-là.
D'accord. Et je retourne un peu sur le thème donc de Esperanza. Donc c'est le déclin de l'Empire du Mal. C'est la question que je pose un peu à tous les artistes. Quand tu as fait ces différentes tournées, que tu as vu de ces différents pays, est-ce qu'il y a un pays qui t'a marqué d'un point de vue de la différence homme-femme fort présente, et un où, à l'inverse, ça avait l'air très libéré?
Ouais.
Est-ce que...
Bien sûr, ouais. Je suis beaucoup en Inde, en l'occurrence, tu vois. Donc en Inde, c'est vachement difficile, parce qu'ils ont tellement perdu leur repère avec le féminin, le côté féminin, qu'ils sont vraiment perdus. Il y a des générations qui sont vraiment perdues. Et culturellement, ils ont aussi, tu vois, enfin, tu sais, ils ont essayé de contrôler les naissances pour, enfin, tu vois, c'était pas avantageux d'avoir des petites filles, alors, tu vois. Donc, c'est un gros bordel là-bas, vraiment. Et puis d'autres pays, je pense à l'Allemagne, par exemple, tu vois, qui est un pays où tu sens vraiment une égalité. Je sens moins de, tu vois, même de, je suis pas allé souvent, tu vois, mais à Berlin, tu sais, moins de macho, moins de trucs comme ça dans les rues, quoi, que par exemple chez nous.
D'accord. Je reviens à tes petits débuts. Quand tu as commencé à faire des concerts, c'était dans des cafés, des choses comme ça. C'était quoi qu'est-ce que tu ressentais par rapport au premier public que tu avais eu? Qu'est-ce qui te faisait te sentir? Est-ce qu'au début, il y a eu des gros flops ou est-ce que ça a tout de suite marché assez bien ou,
Ben, en fait, j'ai commencé d'abord à faire ça dans des soirées entre potes, tu vois. Mm-hmm. Donc on a eu bien le temps de s'entraîner, mais il y avait quand même 100 personnes, des trucs comme ça.
Ah oui.
Et ensuite on est dans les bars, non, et puis c'était toujours des open mic, tu vois. Au début c'est jamais ton nom sur le petit flyer, c'est t'arrives, il y a un gars qui te tend le micro, tu prends et bla. Et donc forcément c'est la fête, c'est l'ambiance de la fête, c'est beaucoup plus facile. J'ai pas le souvenir de gros flops vraiment. Mm-hmm. Non, c'était, puis tu vois ce délire là, c'est vraiment en proximité avec le public. Moi ce que j'adorais à cette époque là, tu vois, c'est le point ultime quand tout le monde est en transpiration maximum, tu vois, qu'il n'y a plus de différence, on se mélange tous en fait, ouais. Tu vois, dans un sens, c'est même le plafond qui coule et tout, quoi. et ça là-dedans, quand ça bouillonne comme ça, il se passe une fusion, tu vois, et ça j'adore, ouais.
Et dans les différents endroits où tu as pu aller en concert, est-ce que tu as eu l'opportunité d'entrer en contact avec le public, mais en dehors de la scène, c'est-à-dire après peut-être pouvoir prendre du temps un peu pour parler avec ou pour voir le pays avec des gens du pays, etc.
Bien sûr, ouais, ça arrivait à plusieurs endroits de façon différente. En général, on passe toujours du temps avec le public, mm-hmm. où qu'on aille, même sur les festivals et tout ça. Au-delà de ça, par exemple, quand on est allé en Nouvelle-Calédonie la première fois, j'ai contacté un artiste local qui s'appelle Marcus Gad, qui connaît vraiment bien toute l'île, et il nous a fait voyager 10 jours mm-hmm. tout autour de l'île, tribu en tribu. Vraiment, c'était exceptionnel. En Australie, c'est la même chose, on voyage avec un local. En fait, quand on voyage à l'étranger, on est en petit comité en général, on est 3 ou 4. Et ce qui veut dire qu'on peut facilement se rencontrer les gens, bien plus.
D'accord. Mmh. Eh bien, merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à toutes mes questions.
Ah, c'était super, merci beaucoup.
Pic-ploc comme ça. Donc, on peut retrouver Naaman sur la scène Futuro ce soir, de minuit à 1h du matin. Merci beaucoup, bonne soirée.